Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 618 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Le champagne de Castelnau qui célèbre enfin son premier siècle, l'appellation La Clape dans le Languedoc, le succès des côtes rôties, le Beaujolais version Pinot Noir. Et oui, ça existe. Un pèlerinage chez Dom Pérignon, c'est normal. Et puis la fête des vendanges à Bagnols-sur-Mer, c'était il y a un mois. Et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux. En compagnie d'un trio, ils sont cinq, il n'y a que des garçons, Jacques-Olivier Pesbe, Gérard Muteau, Didier Lamouche, Philippe Forbach et David Cabot.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Pas une fille, c'est le quintet, finalement.
Ah ouais, c'est ça, hein? Le quintet. Ouais, c'est pas une seule fille, c'est pas terrible. Enfin, on va se rattraper. Didier Lamouche, dans l'agenda du vin, on commence par le département de l'Aude. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Alors, jeudi 10 novembre, l'Université de la Vigne au Vin à Ferrales-les-Corbières dans l'Aude fêtera ses 10 ans. Le thème de cette journée de conférences et de débats ouverte à tous, la nature. Et bien évidemment, le vin. Comment respecter la nature dans son travail et son environnement? La question posée cette année est celle de l'influence de la nature sur le vigneron et sur son vin. Les débats devraient permettre de voir combien cette conscience de la nature influence les pratiques et l'identité vigneronne, autant que le marché du vin. Si vous cherchez des informations, c'est universitévignevin.fr, tout attaché.
Alors, on reste dans le sud, du côté de la Grande Motte.
Alors, du 11 au 13 novembre, rendez-vous à la Grande Motte en effet, pour la cinquième édition du Salon du Vin à la plage. Plus de 40 producteurs de vin et de produits du terroir vous attendent, les pieds dans l'eau, ou presque, de 10h à 20h, avec aussi un jeu concours organisé par trouvetonvigneron.com, oui, ça ne s'invente pas, et une soirée Vinéa Love,
pour les célibataires.
Je répète, Vinéa Love, pour les célibataires passionnés de vin, 3 points de suspension.
Ça vous tente, David Cabot, même si vous n'êtes pas célibataire?
C'est le mythique du Pinard.
Oui, mais c'est une bonne idée, ça, avec modération, toujours.
Alors, je précise que l'entrée est libre.
Ah.
Le verre à dégustation, 3 euros.
Allez,
pour le
on
reste,
remonte,
je vous laisse
on va
deviner.
Presque chez vous, Didier, on va à Lyon.
Tout à fait, dimanche 13 novembre, le caviste Vercoquin, ça ne s'invente pas,
Vercoquin,
ça continue, organise un salon du vin nature, Caroline. Non pas naturiste, nature, à Lyon. On se met au verre, rassemblera une vingtaine de vignerons, dégustation, vente de vin et petite restauration sur place, de 10h à 19h, entrée 7 euros, verre Riedel,
très bien,
excusez
belle maison.
Riedel offert, et tous les détails sur le site Vercoquin.com.
David Cobold.
Didier, tenue à poil nécessairement?
Oh, vous avez fini, vous, quoi. Hein, on est à Lyon, on n'est pas à la Grande Motte ou du côté
Je
de la Grande Motte.
Pourquoi nous ne sommes que des garçons?
Oui. La Tour de France, ensuite.
Alors, toujours le 13 novembre.
Dans le Roussillon.
Absolument. À la Tour de France, dans le Roussillon, n'est-ce pas, Alain? De 10h30 à 19h, dégustation, musique, exposition et surprise vous attendent chez les vignerons et dans les rues du village. Ce sont les portes ouvertes à La Tour. Vous pouvez demander des précisions en envoyant un mail à la bande de La Tour. Tout attaché, encore une fois, gmail.com.
Et
pas
enfin,
de commentaire, David.
Et enfin, Marseille.
Et enfin, le prochain dîner du Wine Biz Club de Marseille, bien sûr, le célèbre, se déroulera le mardi 15 novembre au Sofitel du Vieux-Port, au menu économie, gastronomie et bien sûr grand cru. Encore une fois, plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Merci Didier Lamouche. Philippe Forbach, un commentaire sur le millésime 1963.
Bon, c'est un petit millésime. Hein. Côté vin, il n'y a pas grand-chose malheureusement à en tirer. De temps en temps, on a de belles surprises parce que la période des vendanges a été plutôt pas trop mal, alors que le cycle législatif a été compliqué, le gel pendant l'hiver, un printemps plus ou moins agréable. On était relativement pluvieux, donc un peu partout en France, ça n'a pas été terrible. Le seul vignoble qui s'en sort avec les honneurs, il n'est pas en France, sûrement, désolé. Ça va nous amener sur les bords du Douro, notamment dans le Haut-Douro, c'est le Porto. C'est le millésime de référence du siècle passé, 1963.
Ah, c'est le meilleur
vintage
du XXe siècle.
Oui, c'est pas le seul vintage, mais pas le seul grand, mais c'est parmi les plus célèbres en tout cas. Et si vous êtes né dans cette année-là, n'hésitez pas à vous faire offrir ou à déboucher un vintage Port 1963.
Avec modération toujours, Philippe. Qui est
Exactement.
Né en 1963 dans les people, à tous les gens que vous fréquentez,
people,
matin, midi, soir.
Ceux qui se sont mis au chaud sous la couette alors qu'il faisait très froid l'hiver, eh bien, par exemple, Alessandra Martinez, Brigitte Nielsen, Isabelle Giordano, Elma Persson, Laurence Boccolini, Marie-Claude Pietragala ou encore Pauline Esther, côté féminin.
Et les garçons,
et côté
quand même,
masculin, oui, Laurent Ruquier, par exemple, Rock Voisine, Podalides et Dubos, qu'on associe souvent dans certains spectacles. Côté sport, Bernard Lama, par exemple, ou encore Henri Lecomte, Jean-Pierre Papin également.
Vous avez Xavier Lecomte ou pas?
Oui, j'ai Paul Belmondo, j'ai Henri Lecomte aussi,
Xavier
très loin, et j'ai même le grand-duc Stéphane Bern qui nous présente aujourd'hui le comte Xavier.
Voilà, c'est notre premier invité, Xavier Lecomte, le président d'Athulam, la fenêtre française. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Voilà,
bonjour
63,
Alain.
Maintenant bonjour vous êtes né à Meaux.
Hein. Oui.
Ensuite, une formation d'ingénieur et vous avez débuté votre carrière dans les logiciels de gestion. Vous étiez quoi, commercial ?
J'étais commercial, exactement. Je commercialisais des logiciels de gestion auprès des PME agroalimentaires sur toute la France.
Bon, et ça marchait, vous étiez un bon commercial ou pas ?
Je l'espère, en tout cas, j'avais de bons résultats.
Bon, en tout cas, vous avez repris l'entreprise Athulam en 1997. Un mot sur cette entreprise, elle a été créée en 65, c'est ça ?
Athulam a été créée en 65, c'est spécialisé dans la fenêtre en 91, c'était une menuiserie artisanale. Je l'ai repris en 97, à l'époque on était 20 personnes, on avait créé 1,5 million de chiffre d'affaires, on avait réalisé 1,5 million de chiffre d'affaires. Avec un seul client qui était la maison mère.
Un seul client.
Donc le challenge a été d'en trouver d'autres. Et aujourd'hui, 19 ans plus tard, on réalise 13,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 120 salariés.
Bravo,
et
hein.
Nous commercialisons auprès de près de 1000 clients professionnels, des menuisiers.
Et vous êtes basé dans la Creuse. Faut y aller dans la Creuse.
Hein. Oui, tout à fait. C'est une des forces de l'entreprise parce que dans la Creuse, on trouve des gens travailleurs impliqués dans le projet de leur entreprise. Et ça, c'est un des secrets
et pas ailleurs,
de notre développement.
Pas
ailleurs aussi, bien sûr, mais en tout cas, là-bas, on en trouve.
Parce que donc, la boîte a été créée en 65 dans la Creuse. Quoi.
C'était, oui, tout à fait. C'était une menuiserie artisanale et une opportunité a fait que je suis allé dans la Creuse alors que je n'y avais jamais mis les pieds.
Mmh. C'est joli, la Creuse, ou pas ?
C'est joli, ouais.
C'est joli,
très belle nature.
Alors, les 120
collaborateurs... Argenton-sur-Creuse.
Argenton-sur-Creuse, ce n'est pas dans la Creuse.
Ah bon ?
Ouais, c'est
vrai.
C'est dans l'Inde.
Bien essayé.
Recalé à l'examen de géo.
Par rapport à Londres, c'est un peu plus difficile.
C'est ça. Et les 120 collaborateurs, donc c'est difficile de les recruter. Les gens sont contents, ils sont motivés aussi. Il y a un savoir-faire qui se transmet.
C'est difficile de les recruter, mais on arrive encore une fois à rencontrer des gens motivés. Et on a surtout des gens attachés à leur région, donc attachés à leur entreprise. Donc il y a une solidité de l'emploi.
Et ça, c'est une bonne chose.
De l'emploi qui est riche.
Alors, vous en parlez tout à l'heure, vous êtes en B2B2C avec plus de 1000 revendeurs, c'est ça ?
Et donc, exactement.
Ils sont nationaux, les revendeurs ?
Les revendeurs ne sont pas tous nationaux, mais nous travaillons aujourd'hui par le biais d'une trentaine d'agents commerciaux multicartes. Nous commercialisons l'offre Athulam sur tout le territoire français, pour le moment.
Et vous avez lancé donc le concept de fenêtre française, Cocorico.
Exactement.
Vous surfez sur le slip français, sur plein de choses de français. Quoi.
Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, les Français sont soucieux de l'avenir de leur pays. C'est une bonne chose, de l'avenir de leurs enfants aussi. Et donc, nous souhaitons nous faire connaître auprès du particulier, auprès du client final. Athulam, c'est une marque reconnue aujourd'hui auprès des professionnels, mais pas suffisamment auprès du client final. Et nous communiquons sur... Je ne sais pas si j'ai expliqué mon métier, mais je fabrique des fenêtres et des portes en bois sur mesure. Et le problème du bois, c'est la finition, c'est la peinture. Et aujourd'hui, on est capable de garantir 12 ans nos finitions.
À 12 ans, quand même.
Absolument. Et nous avons des chantiers qui ont plus de 18 ans d'existence, finis en usine, posés depuis 18 ans, qui n'ont absolument pas bougé. Donc on est serein sur la pérennité de la peinture.
David Cobol, vous qui avez été notamment bûcheron et puis menuisier dans une autre vie.
J'ai été menuisier ébéniste. Donc pour moi j'adore le bois et je n'utiliserai pas autre chose pour mes portes et fenêtres.
Je vous félicite.
Mais je dirais que le problème est aussi la stabilité. C'est-à-dire que le bois doit être très bien traité, très bien séché et bien assemblé pour être stable dans le temps.
Tout à fait, ça va même un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une essence de bois résistante, que ce soit le chêne ou des bois exotiques de très haute gamme. Il faut un savoir-faire dans la conception de la fabrication de la fenêtre. On a travaillé avec nos partenaires fournisseurs de peinture. Il faut choisir les bons produits. Il faut bien les appliquer. On applique 3 produits différents. On égrène entre chaque. Un des secrets, c'est l'égrenage. Et comme vous le dites, aujourd'hui, on a solutionné le problème de la stabilité du bois, puisqu'on est capable de travailler avec du bois qu'on appelle lamellé-collé. C'est-à-dire qu'en gros, on coupe le bois en tranches et on le recolle pour en obtenir une meilleure stabilité.
Ça évite le vrillage.
Exactement. Le bois ne travaille plus comme avant. Et donc, on a une vraie stabilité du produit qui nous permet de travailler dans la sérénité et d'offrir aux clients une solution tout à fait durable.
Philippe Orbach.
Alors, vous savez que nous, dans l'univers du vin, on est très sensible au bois. Vous avez cité les essences que vous utilisez, notamment le chêne, qui est pour nous...
Chêne français.
La référence. C'était la question. Là, vous utilisez plutôt des bois un peu exotiques, vous l'avez cité dans votre propos.
On utilise trois essences de bois.
C'est
une très bonne question.
Voilà, forêt française.
On utilise historiquement surtout du bois exotique, mais des bois très très haut de gamme. Sur les bois exotiques, il y en a des milliers, des bois africains. Ensuite, on utilise du pin sylvestre pour la partie bois résineux pour certaines régions de France. Il faut s'adapter à chaque marché. Et on cherche à développer le chêne français.
Ah oui.
Parce que moi, je crois à ça. Enfin, quand je crée la fenêtre française, c'est
pas
seulement mercantile, ce sont aussi des valeurs auxquelles je crois. Et donc, on développe aujourd'hui le chêne français qui représentait 5% de nos fabrications et tend vers 15 à 20%.
Ah oui.
Il y a un vrai développement.
On est
en concurrence avec les fabricants de fûts.
Oui, c'est ça. Oui.
Exactement.
Pour récupérer les meilleurs bois.
Exactement.
Oui. C'est un marché, sauf erreur de ma part, très concurrentiel. En tous les cas, on voit pas mal d'offres, on voit beaucoup de publicité circuler. Comment se démarque-t-on une entreprise dans la Creuse pour arriver comme ça à intéresser l'ensemble des consommateurs français?
C'est une excellente question là encore.
Mais ils sont tous très bons, Xavier. Cherchez pas.
Est-ce que c'est important? Vous avez raison, le marché est très très concurrentiel et pour le bois encore plus. On est sur un marché à la baissier, c'est-à-dire le nombre de fenêtres vendues en France baisse chaque année depuis quelques années. Le taux de pénétration du bois baisse lui aussi. Et nous, ça fait 19 ans que tous les ans nous faisons de la croissance. Alors je touche du bois, et j'espère que cela va durer. Tout est construit sur la qualité.
D'accord.
Tout est construit sur la qualité. Je mets les moyens maximum pour offrir au client final une solution. Je n'ai pas de procédure en cours, je n'ai pas de clients finaux insatisfaits, j'ai deux personnes qui se déplacent dans toute la France. Ce n'est pas que le produit. On a mis le paquet sur le produit, mais on met aussi le paquet sur le service autour. Et on est connu et reconnu aujourd'hui pour ça.
Est-ce que vous effectuez la pose après?
Non, on vend à des poseurs, on va les accompagner, y compris pour prendre les codes des fois sur des chantiers techniques ou pour prendre les mesures ou pour poser la fenêtre. Et ça, on est les seuls en France à le faire, les accompagner sur la pose. Les gros fabricants de PVC que vous pouvez connaître ne le font pas.
Ils
sont un peu admirables.
Xavier Lecomte, je sais que vous écoutez chaque week-end une BFM, non pas dans la Creuse, mais à Paris, sur 96.4 sur BFM Business. Côté vin rouge, vous êtes plutôt Bordeaux quand même.
Plutôt Bordeaux, ouais.
Une appellation favorite peut-être?
Je vais dire Mouton Rothschild, c'est pas celle que je consomme tous les jours.
La pire, quoi.
Alors, un souvenir. L'appellation, c'est Pauillac.
La petite histoire du Mouton Rothschild, c'est que j'ai travaillé aussi dans le conseil après avoir vendu des logiciels de gestion. Et j'avais fait un pari avec mon PDG à l'époque de signer un assez gros contrat avec Paribas avant fin février. Et j'ai signé le 28 février.
Coup de bol.
On avait parié une bouteille de Pétrus. Il a joué le jeu jusqu'au bout, il a réuni ses associés et moi-même, et on a dégusté plusieurs bonnes bouteilles, dont un
Pétrus. Dont le Pétrus, quoi.
En finale, c'était une des rares. Je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'en ai.
Et c'est un vin rare et excellent, quoi.
Mais avant le Pétrus, on a dégusté le Mouton Rothschild, qui nous a tous émus.
Bon, avec modération, tout ça, mais un gentil patron, entendu. Quand même. Un souvenir d'une visite au domaine de Chevalier, toujours à Bordeaux, avec des copains du rugby.
Oui, tout à fait.
Vous jouez au rugby toujours ou pas?
Oui, je joue toujours un petit peu. J'ai repris la semaine dernière ce qu'on appelle du toucher, où on ne se plaque plus, mais on court, et ça nous fait beaucoup de bien.
Et c'est sympa, ça.
Avec des bons joueurs, donc c'est intéressant. On se fait plaisir.
Et donc, domaine de Chevalier avec des copains, quoi.
Voilà, on était en tournée, je joue avec les anciens du Stade français, les Voltigeurs. Et nous sommes allés faire une tournée à Bordeaux il y a quelques années. Nous avons été très bien reçus, nous avons fait un gros match à l'époque contre les anciens de l'Union Bordeaux-Bègles.
Oui. Vous avez gagné ou vous avez perdu?
On a gagné.
Bravo.
Mais de peu, ça a été un match très engagé.
Christophe Salin jouait à l'époque dans les Voltigeurs?
Ah non, je l'ai pas connu.
C'est le directeur des domaines Rothschild. Oui. C'est aussi un ancien du Stade français.
D'accord. Philippe Orbach, le domaine de Chevalier, qu'est-ce que c'est que ça?
J'ai les petits domaines qui montent.
Et on embrasse Olivier Bernard.
On embrasse Olivier Bernard, qui est le président de l'Union des Crus et des Grands Crus de Bordeaux. C'est un grand cru classé de Pessac-Léognan, donc on est situé dans la région des Graves. Et c'est un terroir magnifique dans lequel le rouge, certes, est une référence, mais surtout le blanc. Moi, j'adore le blanc de Chevalier, c'est juste une merveille. C'est un blanc qui a toutes les qualités qu'on aime dans les grands blancs, quoi. La complexité, la matière, une fraîcheur qui donne un côté quand même aérien, un élevage qui certes le marque un peu, mais qui lui permet aussi de se garder longtemps.
Ouais,
c'est un blanc qui donne du plaisir pendant pas mal d'années.
Xavier Lecomte, côté cuisine, on va faire plaisir à Natacha parce qu'il paraît que vous êtes le champion du monde du bar au barbecue. On salue d'ailleurs Natacha, votre compagne.
Effectivement, oui. Ma femme adore que je prépare le bar au barbecue. Je ne veux pas dire que je sois un grand cuisinier, mais j'ai le plaisir de la bonne chair. Donc, quand je m'y colle, comme on dit, eh bien, j'essaye de le faire bien.
Bien,
donc,
quoi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, David Cobold, avec le bar au barbecue préparé brillamment par Xavier Lecomte pour sa chérie Natacha? Et pour nous, parce qu'on va venir d'ailleurs.
Je crois qu'on peut rester au domaine de Chevalier Blanc. Ça va pas mal,
à mon avis. Il y a pire. Et enfin, pour terminer, vous êtes aussi associé à un certain Yves Campdebord.
Oui, tout à fait, à l'hôtel du Relais Saint-Germain et au comptoir du Relais qui est son restaurant. En fait, c'est une histoire d'amis, là encore. Yves, c'est la personne qui m'a accueilli à Paris à la fin de mes études, dans un club de rugby, un petit club de rugby qui s'appelait les Olympiades, qui ont fusionné après avec le Massif Central. Et nous avons formé un groupe d'amis, nous sommes montés de division en division jusqu'en 3e division nationale, ce qui était un bon niveau. Et donc, tout ça a construit une amitié forte qui a fait que quand Yves, qui après avoir fait toutes les grandes maisons, avoir créé le concept de la bistronomie au travers du restaurant La Régalade, a vendu La Régalade et cherchait un nouveau projet en incluant l'hôtellerie. Donc, cherchait des investisseurs. On était au JO d'Athènes avec d'autres amis et il nous a mis un petit peu dans la confidence et j'ai trouvé le projet magnifique.
Donc vous avez un petit peu d'argent là-dedans, quoi.
Voilà. Il disait qu'il avait de belles fêtes d'ailleurs.
Copain, quoi. Son hôtel.
Oui, c'est ça. Vous pouvez aller voir. On a changé les dernières il n'y a pas longtemps.
Bon, c'est merci Xavier Lecomte et merci bon vent pour cette fenêtre française que le monde entier va s'arracher. Une île BFM toujours en public et délocalisée à Paris. Chez Nicolas, nous sommes place de la Madeleine pour accueillir un nouvel invité, Pascal Prudhomme, le directeur général du Champagne de Castelnau. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Bon alors, joyeux anniversaire.
Merci
vous
beaucoup.
Avez un siècle et vous ne le faites pas du tout, quoi.
Ben, je vous remercie. Alors, la jeunesse est toujours là.
Est-ce qu'il a réellement existé, ce monsieur de Castelnau?
Monsieur de Castelnau a réellement existé. C'est un général de la Première Guerre mondiale et il est mort de sa belle mort en 1944. Mais depuis, on crée une nouvelle marque, une nouvelle énergie, un nouvel espoir et puis finalement une ambition forte avec le deuxième centenaire qui s'ouvre à nous.
Alors avant de parler de l'actualité, avec cette cuvée hors catégorie, hein. Un petit mot sur la coopérative. Vous avez 900 hectares au total.
Alors, nous collectons auprès de 785 vignerons dans un esprit très collectif, si je reviens sur le rugby. Nous collectons effectivement 900 hectares de vignes, tant chardonnay que pinot noir, que pinot meunier. Et puis, on élève ça dans nos caves. Et nous avons actuellement en cave à peu près 28 millions de bouteilles qui mûrissent, qui sont élevées tranquillement, pour pouvoir ensuite être offerte sur les tables.
Vous êtes basé où exactement, Pascal?
Nous sommes dans le centre de Reims.
Dans le centre de Reims, ouais. Quoi. Et le numéro de code pour entrer dans votre cave, c'est...
c'est le mien. Vous m'appelez et je sélectionne.
Et les coopérateurs, donc ça, ce sont des gens qui ont choisi, qui ont décidé, qui accompagnent depuis longtemps?
Depuis très longtemps. Il y a une fidélité tout à fait étonnante, à peu près 24 ans en moyenne de présence au sein de la coopérative, que ce soit les grands-parents, puisque l'entreprise a quelques années maintenant, les enfants et puis les petits-enfants que l'on cultive au niveau de l'esprit pour pouvoir adhérer justement dans cette magie qu'est Castelnau aujourd'hui.
Un mot sur votre chef de cave?
Alors, Elisabeth Sarcelet, qui est chef de cave, est une femme remarquable, pétrie à la fois de tendresse vis-à-vis de l'élevage de ses vins, avec une équipe essentiellement féminine. Une équipe composée de...
C'est assez rare ou pas en Champagne, ça, côté chef de cave? Parce que pour l'instant, on en a reçu quelques-uns dans l'émission, pas mal depuis
chef de cave, femme, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Une équipe essentiellement composée de femmes, c'est peut-être rare, oui. Mais c'est exceptionnel.
Bien sûr, c'est exceptionnel. Ça apporte quoi une touche féminine? C'est une question bête et machiste, mais allons-y, qu'est-ce que ça peut apporter?
Certainement une nuance beaucoup plus souple dans l'élaboration du vin, et puis peut-être beaucoup plus de réflexion qu'un homme.
David Cobol, vous en pensez quoi, vous?
Ben, je pense que du bien.
Vous pensez que du bien? Et oui. Moi, Philippe Orbach?
Je partage cet avis.
Bon, d'accord, il n'y a que des faux culs aujourd'hui. C'est une mission spéciale.
Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chefs de cave, femmes, de plus en plus de collaboratrices femmes, de toute façon, en viticulture. Et en Champagne en particulier, on dit quand même que le Champagne, c'est, même si c'était fait longtemps par des hommes, en tout cas des hommes célèbres.
Par des veuves aussi.
Et beaucoup par des veuves, exactement, qui ont marqué le. Mais quand même, le Champagne est très apprécié par les femmes.
Bien sûr.
Et la Pompadour était un des ambassadeurs parmi les
champagne
plus célèbres.
Champagne, seul vin qui laisse qui femme soit... belle après boire. C'est exactement. Un peu machiste comme remarque.
Pascal Prudhomme, on parle de votre cuvée, la cuvée hors catégorie, qui sort spécialement pour votre premier siècle. Quel est le concept?
Alors le concept, c'est essentiellement de la fraîcheur avec un assemblage de 3 millésimes. Là aussi, ce n'est pas très fréquent. Nous faisons un assemblage des années 2008, 2009 et 2010, avec 5 années de vieillissement. Et puisqu'on parlait de bois français tout à l'heure, nous utilisons un bois d'Argonne pour vieillir le chardonnay et un bois de Bourgogne pour vieillir l'épine noire de Bouzy. Et tout ça donne une subtilité avec un peu de teinte boisée, mais beaucoup de touches féminines, justement, sur la vanille, etc. Et ce lancement a été effectué il y a 15 jours, au Plaza Athénée, au Relais Plaza.
À Paris, donc.
À Paris. Et nous avons eu un très grand succès. C'est quelque chose aujourd'hui qui nous permet de relancer finalement l'ouverture d'un deuxième centenaire, puisque l'avenir est devant vous et c'est ça qui est important.
Philippe Orbach,
j'ai eu l'occasion de goûter cette cuvée il y a quelques jours donc, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le style, le nom aussi hors catégorie. peut-être pas évoqué directement, mais c'est quand même un petit clin d'œil
autour de France.
Autour de France, dans lequel le champagne.
On va en parler, effectivement.
On va en parler. Les partenaires. J'ai beaucoup aimé le vin et ça correspond bien à l'évolution. Alors, c'est ce que vous faites vous, mais à d'autres maisons aussi, de revenir à des élevages un peu sous bois sans trop marquer le vin.
Exactement.
Dans cette élégance. Et finalement, on redécouvre le bois en champagne, mais c'est pourtant la fameuse pièce champenoise de 205 litres. Elle a accompagné l'histoire de la champagne depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça a été abandonné pour des vertus hygiéniques, pratiques, etc. La cuverie tout inox.
Et
les volumes.
Et volume,
aujourd'hui, on arrive à trouver de plus en plus. J'étais récemment en Champagne pour une grande dégustation avec le magazine Sommelier International. C'était juste magnifique de retrouver ces cuvées.
Pascal Prudhomme, il faudra se dépêcher parce qu'il y a à peine 3500 flacons.
Exactement.
Mais il faut y aller vite.
Exactement. Et à force d'en déguster, il en reste moins.
Pourquoi aussi peu d'ailleurs ? C'est une vraie volonté du qualitatif.
Ben, je crois que David l'a dit, c'est que nous n'avons pas non plus des capacités à utiliser aujourd'hui énormément de fûts. Donc, et puis quand c'est un lancement, il faut contrôler les choses. À partir du moment où on touche un public, et merci Philippe de ce commentaire important pour nous, je pense qu'on va continuer à élever justement ce vin avec un peu plus de quantité. Par exemple, le tirage l'année dernière est monté à 5000 bouteilles.
D'accord.
5000 flacons.
Le prix ?
Le prix, 90 euros TTC public.
Oui, ce qui est très raisonnable pour une grande cuvée. Et c'est vraiment, David Cobol, on a souvent de très très bonnes surprises en Champagne. Les grandes cuvées sont peu chères.
Je ne dirais pas ça. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que...
Par rapport à d'autres bouteilles, par rapport à des Bordeaux, autre chose.
Ah oui, alors aujourd'hui, le champagne est beaucoup moins cher que les Grandes Bourgognes et les Grands Bordeaux. Ça c'est vrai.
Merci, David.
Oui, mais tout est relatif. Mais je ne dirais pas qu'ils sont bon marché.
En tout cas, 90 euros, on prend son kiff, comme disait John.
Oui, mais bon, ça trie quand même.
Ça trie.
Oui, ça trie, mais c'est, je pense, aussi une volonté de toucher à la fois un public un peu plus nombreux que des produits qui sont proposés au-dessus de 100 euros,
par exemple. On peut les trouver où, alors, ces belles bouteilles ?
Dans toutes les belles caves de Paris et de France. Mmh. Et aussi à l'international, à Londres, où nous avons une filiale.
Vous avez un site internet pour prendre enseignement sur le vin ?
Bien sûr, c'est Castelnau. Castelnau-EU.fr.
Merci beaucoup Pascal Prudhomme, le directeur général de ce champagne de Castelnau qui célèbre ses 100 ans cette année avec cette super cuvée, la cuvée hors catégorie, une vidéo BFM en tout maintenant Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde notamment, pour une balade sympa dans le Languedoc.
Oui, je vous amène du côté de Narbonne, entre Narbonne-Ville, Narbonne-Plage et Gruissant. Et au centre de ce triptyque gagnant, il y a une sorte de petite montagne, aujourd'hui montagne avant île, puisque le tout était entouré d'eau à l'époque gallo-romaine, c'est le massif de la Clappe. Alors c'est à la fois, merci...
Ça c'est David Cobol qui s'excite.
Ça c'est la version française de la Clappe, parce qu'en version anglaise, c'est pas tout à fait la même terminologie. Mais
il y a deux sens.
C'est vrai. En tout cas, c'est vrai qu'on peut applaudir un peu le côté naturel de cette montagne qui culmine à quelques dizaines de mètres, c'est pas quand même le Mont Blanc, hein. Mais néanmoins, c'est d'altitude. Et c'est du coup, ce massif a toujours été protégé. Déjà à l'époque à laquelle je faisais référence il y a un instant, l'époque gallo-romaine, c'est un endroit particulier. On y isolait les gens lorsqu'ils étaient atteints de la peste. Alors c'est pas très ragoûtant.
C'est très drôle, votre histoire.
Ça rejoint un des sens anglais du terme la clappe.
Voilà. Mais peut-être que c'est une origine qui rappelle ça. Mais en tout cas, c'était suffisamment isolé et ça a toujours été le cas. Du coup, il y a une sorte de micro. Climat particulier, en tout cas d'ambiance particulière dans ce massif.
Méso, Philippe. Méso,
ou un mésoclimat, pour que ça soit encore plus précis, qui a toujours protégé ce massif. Et d'ailleurs, c'est un massif qui est classé en l'état, avec une démarche plutôt éco-responsable, on va pas dire écologique complètement, mais quand même éco-responsable, avec une faune, une flore assez exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment... assez exceptionnel. Le vignoble est développé depuis ce qu'on appelle la Gaule narbonnaise, donc qui était une grande époque de économique et politique de la région. Et ce vignoble qui avait un port naturel, qui était le port de Narbonne à côté, a toujours permis de diffuser effectivement ses vins et la qualité de ses vins. Alors aujourd'hui, alors pendant longtemps intégré dans les fameux vins du Languedoc, Coteau du Languedoc, puis Coteau du Languedoc, la Clappe, pour pouvoir préciser un peu les choses, est devenu depuis quelques moi, la CLAP tout court, c'est-à-dire une appellation d'origine contrôlée en tant que telle, qui permet d'identifier, comme certaines autres appellations du coin, dont on a parlé ici, les terrasses du Larzac, Montpérou, ou encore d'autres petits terroirs qui ont eu cette identité et cette volonté dans la hiérarchisation qualitative des vins de la région. Pic-Saint-Loup parmi les derniers, ouais. Pic-Poule de Pinet tout à côté, enfin, il y a vraiment pas mal de crus qui aujourd'hui, entre guillemets, se sont pas détachés du Languedoc, mais n'utilisent plus le terme Languedoc comme accroche, mais directement le nom de leur
terroir. C'est un peu la même démarche que Keren, Vaqueras, Châteauneuf.
Exactement, qui étaient des villages et qui sont devenus crus à part entière. C'est le cas de ce cru, donc la CLAP. On y produit à la fois des rouges, des blancs, des rosés. Les rouges classiques sont élaborés à partir de Grenache, Syrah, Mourvèdre, qui sont les trois grands cépages traditionnels du sud de la France. On a quand même en complément des Carignans, et les vieux Carignans au coteau donnent franchement de jolis résultats. C'est un cépage résistant qui peut donner beaucoup de rendement, ce qui n'est pas trop le cas dans ce coin-là, parce que les rendements ont toujours été bridés un petit peu par l'exposition et par les coteaux. On y trouve un peu de cinceau aussi, qui est plus utilisé pour les rosés que pour les rouges. Les rouges peuvent se goûter agréablement au bout de 2-3 ans, mais on a plaisir, ou on a la possibilité de les garder un peu plus longtemps sans aucun problème. Il y a de très belles cuvées, je vais parler de quelques vignons tout à l'heure, qui peuvent se garder très bien et très longtemps. Les rosés sont plutôt à boire rapidement. Alors, c'est pas le côté rosé provençal, léger, pâle. On a plutôt des rosés avec un petit peu de matière.
Oui, matière.
Mais c'est plutôt vraiment sympa.
Vous aimez les vins de Languedoc, Pascal Prédhomme ? Vous aimez les vins ?
Oui, j'aime bien. J'aime bien les Saint-Chinian, qui sont classiques, dans le Languedoc. Pic-Saint-Loup aussi, très subtil, avec une certaine finesse. Oui, c'est très
et pour vous, c'est une région qui a été transformée, on va dire, depuis quelques années ?
Oui, déjà, je la connais depuis plus de 30 ans, puisque j'ai fait agro à Montpellier, donc je l'ai vu se transformer, se professionnaliser, s'organiser. Et puis, par exemple, à Ouveillan, là, on a le domaine de la Laurie, qui est un truc, pardon pour le truc, qui est un domaine tout à fait extraordinaire, piloté par deux jeunes jumelles. Et voilà, ce sont des vins qui sont équilibrés, puissants parfois, et qui donnent une joie dans la dégustation.
Philippe Alors, on ne peut pas ne pas parler du blanc, qui est assez original. Le blanc est célèbre dans la cave depuis longtemps. Il est élaboré essentiellement à partir de Bourboulin, qui a comme caractéristique de garder, de fixer une certaine acidité, donner des vins qui sont vraiment frais et des altérants. Clairette, Grenache blanc, Pic-Poule, Rolle, etc. Roussanne sont des cépages complémentaires. D'ailleurs, la Bourboulingue dans la région s'appelle, on l'appelle aussi le Malvoisie. Malvoisie, c'est un peu à toutes les sauces finalement. Quand on étudie la Malvoisie en Méditerranée, il y a vraiment plein de synonymes possibles. Mais il y a une légende qui remonte à la mythologie grecque qui
Alors,
dit
allons-y.
Que le vin de Malvoisie donnait de la sagesse à ceux qui le buvaient.
Oh.
Donc on peut imaginer que
ça vous inspire, ça, Gérard Buteau,
la région,
la Grèce.
Je me sens.
Vous sentez un peu grec, vous, non ?
Je me sens très sage.
Très sage.
Voilà. Il faut dire que le terroir de type calcaire, c'est assez, même si c'est de l'argile, voire du sable dans la partie basse, c'est très calcaire. Il y a d'ailleurs des grottes et des avennes extraordinaires que l'on visite, enfin que l'on peut visiter et appréhender, qui montrent aussi dans ces endroits où vivaient d'ailleurs les gens à cette époque.
À l'époque, quoi.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui vivent
dedans ? Oui, justement, il y a quelques vignerons qu'on va citer qui vivaient dans les grottes à l'époque.
Il y en a qui viennent s'abriter de temps en temps lorsque le vent, parce que c'est très très venteux également, on dit que c'est une appellation aux 13 vents, donc ça aide aussi justement la viticulture naturelle. Abbaye de Monge, par exemple, le château de Capitoul, la Négli, très bon domaine, l'Hospitalet, qui fait partie des références depuis longtemps, le Mirlétan, le Mas du Soleilla, qui est une petite parcelle de l'Hospitalet qui a été détachée il y a quelques années, les Cardelles ou encore le Pêche Redon sont des bons repères de cette appellation.
Le prix, Philippe ?
Allez, à partir d'une dizaine d'euros, et puis les cuvées spéciales dont j'ai parlé tout à l'heure, sur des rouges un petit peu plus structurés de garde, on peut aller jusqu'à 25 euros.
25 euros, quoi. Et ça peut se garder, votre avis, pour les rouges?
Oui, pour les rouges, ça peut se garder. Ce sont des vins qui vont aller très bien aller avec des viandes grillées, des rôties, du gibier. Il y a quelques sangliers qui viennent quand même manger les raisins de temps en temps.
Mais
dans
c'est
la
bon,
région.
Ça, justement, il faut les faire rôtir.
Il y a des perdrix extraordinaires qui vont aller régaler les plus fins palais.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Nous marquons une pause pour les info et ensuite retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz et parler de l'appellation aussi étonnante, les Côtes-Rôties.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Didier Lamouche et le Vino Quiz.
Absolument. Donc, un rappel du principe, chaque semaine nous posons une question sur le vin. Et le vainqueur a la chance de gagner un exemplaire de l'excellent guide des vins du Wine and Business Club. Alors la semaine dernière, la question était, pour ceux qui s'en souviennent, quel cépage compose la cuvée rare, rosée, de Piper Etzig ? Réponse A, Chardonnay et Pinot Noir. Réponse B, Chardonnay et Sauvignon. J'ai honte de poser ce genre de questions. Réponse C, Pinot Noir et Sauvignon.
Et la bonne réponse, Didier,
évidemment, la réponse A, Chardonnay, Pinot Noir.
Alors cette semaine, une nouvelle question.
Une nouvelle question, extrêmement difficile. Qu'est-ce que la clape, David ? Réponse A, un poisson d'eau douce. Réponse B, un coup donné avec le plat de la main. Réponse C, une appellation des coteaux du Languedoc.
Réponse D, une maladie honteuse en Grande-Bretagne.
Voilà, et on a droit qu'à un choix. Pour répondre et gagner à l'exemplaire du guide des vins du Wine & Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse email invino@vinojeux.com. Et le gagnant sera bien sûr tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci Didier. Invino BFM accueille maintenant, retrouve plutôt Jacques-Olivier Pesme, le directeur du Kedge Wine & Spirit Academy, pour le numéro 29 de votre clé de la réussite. Et cette semaine, nous partons dans la vallée du Rhône, une région chère, notamment au cœur de Philippe Forbach.
Oui, la réussite est collective. Enfin, avec 300 hectares, elle fait partie des petites appellations françaises, pas la plus petite, mais plutôt petite. On la voit sur la plupart des belles cartes en région Rhône-Alpes, région parisienne et ailleurs. Chez les cavistes, elle affiche un prix moyen assez élevé, hein, de 35€ la bouteille. Elle ne propose qu'une seule couleur à ses clients.
Ça, c'est pas le prix au restaurant.
Non, mais c'est le prix moyen, en tous les cas, qui départ. Beaucoup de petites exploitations, un peu plus de 2 hectares en moyenne. Bref, tout pour se rendre la vie difficile, et pourtant, c'est une réussite indéniable du vignoble français, de tous les vins dans leur ensemble, ce qui est rare, souvent publicité, c'est l'appellation Côte-Rôtie. Alors, l'AOC comporte 73 lieux-dits, classés sur les communes de Thumines-et-Semont, Sampuis et Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Pour vous donner quelques chiffres, elle rassemble un peu plus de 100 producteurs récoltants et près de 70 domaines embouteilleurs. Mmh. Voilà, le vignoble est situé au sud de Vienne, pardon, sur les coteaux de la rive droite du Rhône. À peu près, on est à 30 km au sud de Lyon.
Et 33€ de prix moyen, c'est pas mal, Jacques-Olivier. Hein.
Oui, alors c'est pas mal, et c'est un prix moyen qui augmente régulièrement depuis des années. Hein. On était à 20€ il y a une quinzaine d'années. Ça traduit certes des coûts de production élevés. Hein. Il y a des pentes dans cette région qui peuvent aller jusqu'à 60%.
Si je peux me permettre, il ne faut pas oublier non plus qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Côte-Rôtie valait 1 franc le litre.
Absolument, absolument.
Elle a failli disparaître.
Ça a été une appellation qui a été en plein renouveau. Et c'est un prix aussi, d'un point de vue commercial. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, qu'il faut pouvoir défendre et proposer. Pourtant, vous ne verrez aucun récoltant souffrir de problèmes de stock. Tout se vend. Par ailleurs, ils sont tous membres du syndicat, de l'ODG, et tous à fond dans son fonctionnement. Lorsque je parle avec le président de la gouvernance, vous avez 25% des producteurs et de metteurs en bouteille qui sont membres du conseil d'administration, qui sont membres du conseil d'administration. Un quart de l'appellation. Tout le monde est représenté, surtout les petits exploitants. Guigal, qui est une des grandes figures du coin, est présent. Alors, pas présent nécessairement au conseil d'administration, mais présent en tant que représentant du vignoble auprès d'Interrhône et coprésident de la section Côte-Rôtie.
Alors, qui sont les vignerons ? Parce qu'avec un prix à l'hectare raisonnable, on va dire, il y a plein de gens qui doivent être motivés.
Alors, le prix à l'hectare raisonnable, selon les chiffres, il est valorisé désormais à un peu moins d'un million d'euros. Pour vous donner un
ordre d'idée, la champagne maintenant,
il en coûtait moins de 10 000 euros il y a 20 ans. Ce qui pose d'ailleurs, sur des petits récoltants comme ça, toujours pareil, des questions de transmission de patrimoine. Ouais. Mais c'est un vignoble qui est resté très familial, où les vignerons sont soit du coin, soit issus de vieilles familles, revenus, qui décident de réexploiter les sols de la région. Résultat, on a une homogénéité de profils géosociaux, un peu dans l'esprit des entreprises familiales, qui partagent une vision long terme, plutôt qu'une vision court terme, une forme d'entraîne, de solidarité très forte, ce qui n'empêche pas évidemment toujours quelques histoires de clochers. Bref, exactement selon moi, qui travaille beaucoup sur les réussites, les réussites collectives, la condition numéro un de réussite d'une appellation.
Bon, alors d'accord Jacques-Olivier, la solidarité c'est bien, mais c'est quoi ça ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? On rame dans le même sens ?
Oui, alors c'est compliqué, c'est la culture du collectif, on parlait de sport tout à l'heure, de sport collectif, c'est exactement cela, c'est un combat de tous les jours qui se manifeste par plein de petites choses. Je vais vous citer juste quelques exemples qui illustrent selon moi cette solidarité dont je fais part. Un, ils organisent depuis plusieurs années le marché d'Ampuy, qui aura lieu cette année, enfin l'année qui vient, du 20 au 23 janvier, absolument. Tout le monde est là. Vous avez 90% du vignoble, voire plus, qui est représenté. Ils jouent tous le jeu. Tout le monde est présent. L'année dernière, cette nouvelle présidente décide de créer un événement, un dîner de prestige, qui s'appelle la Tablée de Côte-Rôtie. Il en coûtait pour chaque vigneron d'inviter à chaque fois 5 convives à un prix de 180€ le dîner. On est, je le rappelle, sur des petites exploitations, 2 hectares en moyenne. Eh bien, vous avez la moitié de l'appellation qui est venue, qui a pris une table, 1000 euros par vigneron. Absolument extraordinaire. Et puis, un autre exemple assez sympa. Quand vient l'orage, ou quand l'orage se pointe, vous avez une pratique historique. Vous avez 5 vignerons qui se postent sur les terres en hauteur et qui balancent comme ça, qui tirent des fusées sur les cumulonimbus, qui empêchent la condensation de l'air humide et donc l'apparition de grêle et qui protègent donc toute l'appellation.
Et ça marche
et ça, hein. Oui, bien sûr.
Bon, avec modération.
Alors, si jamais.
Alors, c'est évidemment, quand même, si
oui, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne illustration, là encore, d'une force et d'une cohésion collective à la faveur d'ensemble d'appellation.
Bon, donc, ça veut dire, pour synthétiser, le succès des côtes rôties, c'est solidarité, enfin en gros la Pologne. Quoi.
Oui, là, ouais, c'est surtout la qualité de ces vins.
Surtout ça.
Hein, ouais. On est d'accord. Et cela s'applique naturellement à l'appellation. Mais surtout de façon homogène, accepter ensemble et défendre un haut standard de qualité, partagé, défendu par tous, ça c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, c'est assez incroyable, ce sont des vins qui ont réussi à percer très fort sur le marché de la restauration et des cavistes, qui sont des marchés difficiles, exigeants. Dans les belles maisons, on trouve souvent des côtes rôties, alors que la taille de vignoble, je le rappelle, est limitée. Les exploitations sont petites et généralement un frein pour elles pour pouvoir pénétrer ce genre de marché. Pour moi, c'est bien l'exemple du triptyque un peu magique des régions viticoles. Coopération, qualité, identité, au milieu duquel on peut ajouter le rôle souvent important, l'input dès lors qu'il est positif d'une locomotive. Ici, ça a été Guigal, par exemple. Bref, l'une des ambitions de la nouvelle présidence, c'est organiser bientôt ou prochainement un événement côte rôtie à New York. Rien de moins, ils vont le faire. J'en prends le pari. Je suis convaincu qu'avec le réseau de sommeliers très actif là-bas, que cela sera un succès.
Didier Lamouche ?
Non, c'est une des histoires les plus phénoménales, je trouve, des 30 ou 40 dernières années. Sans remonter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale de David. Tout à l'heure, moi, j'ai eu la chance de faire mes études à Lyon. Et je me souviens, quand j'étais étudiant, on buvait le côte rôtie au pot ou à la fillette au comptoir.
À
quelques francs. Voilà.
Oui, puis c'était un vignoble qui était une appellation qui était presque à l'abandon parce que dur à cultiver. Petite surface.
J'ai 10 000 euros l'hectare, on est passé à 1 million.
C'est juste inimaginable. Il faut le travailler par contre l'hectare, parce que c'est un hectare à la verticale, avec les petites terrasses. Même si les zones qui se sont développées aujourd'hui, c'est sur le plateau là-haut, et donc on est dans des terrains un peu plus plats, peut-être un peu moins qualitatifs que ce que l'on a au départ, mais l'appellation est belle. D'ailleurs, quand on posait la question vous aimez le côte rôtie, les gens disent oui, on connaît, même le public. Et vous savez d'où c'est? Ça vient de côte rôtie. C'est en Côte-du-Rhône, en Bourgogne ou ailleurs, mais en tout cas, c'est côte rôtie. Bon, donc c'est une appellation qui a dépassé la notoriété de sa région.
David Cabot, vous aimez aussi?
Oui, j'aime beaucoup. Et effectivement, comme disait Jacques-Olivier, ils font très bien la promotion collective. Je suis allé plusieurs années de suite maintenant. Ils organisent avec l'appellation voisine de Condrieu, entièrement blanc, des dégustations où tout le monde est présent.
Merci David Cabot, merci Jacques-Olivier Pesme. Une vidéo BFM, on retrouve maintenant Gérard Muteau, notre journaliste, le rédacteur en chef de ce magazine. C'est le magazine d'ailleurs que tout le monde s'arrache. D'ailleurs, on parle de quoi? De luxe, de business et de champagne dans votre magazine?
Surtout de champagne.
Surtout de champagne, quoi. Alors là, vous voulez nous parler de Pinot Noir dans le Beaujolais. Il faut arrêter les champignons, là. Pinot Noir dans le Beaujolais.
Oui, il se passe des choses.
Ça fait partie de la Bourgogne. Hein.
Dans le Beaujolais, et le Beaujolais fait partie de la Bourgogne. Et les pierres dorées, puisqu'il s'agit d'un Pinot Noir vendu sous le nom des pierres dorées, qui est un nom évocateur de grappes mûres que réchauffent les rayons du soleil réfractés par la roche calcaire.
Et de très jolies maisons.
C'est un endroit particulier du Beaujolais, qui est surnommé d'ailleurs la petite Toscane, car le paysage avec ses collines teintées d'ocre évoque un peu cette partie de l'Italie. Ça se situe au sud du Beaujolais, à quelques encablures de Lyon. Et donc Louis-Fabrice Latour, 11e génération de la lignée fondatrice de la maison éponyme, Louis Latour, en parle comme l'une ou la plus belle région de France. On peut lui faire confiance, c'est un bon vendeur. On peut penser qu'il prépare un peu le terrain de sa nouvelle création, le Pinot Noir des Pierres Dorées. C'est vrai que ça peut ressembler à une provocation en terre beaujolaise, habituellement dédiée au Gamay, si on excepte quand même quelques hectares plantés en Chardonnay, notamment dans cette région. Mais en homme d'expérience, Louis-Fabrice, je pense, a flairé... on pourrait dire vulgairement le bon coup, mais je pense qu'il a flairé autre chose. Lui, qui est réputé pour ses cortons Charlemagne, connaît aussi le marché du vin de Bourgogne et du Beaujolais comme sa poche. Il sait que le marché manque cruellement de Pinot Noir Bourguignon, hein, et ce n'est pas le millésime 2015 et encore plus 2016 avec ses gelées dévastatrices qui va combler cette carence. Il sait aussi que en Beaujolais, si les appellations communales ont retrouvé le chemin des consommateurs, hein, je recommande d'ailleurs à nos auditeurs de se jeter sur les 2015. Les Morgons, les Fleurys, les Moulins à Vent
et avec un excellent rapport qualité-prix
sont remarquables. En Beaujolais, les Beaujolais nouveaux et villages sont encore la peine. C'est dur de vendre son vin en simple appellation Beaujolais. Donc Louis-Fabrice Latour estime qu'il faut être un peu visionnaire et il pense que la conversion en Pinot Noir de parcelles historiquement plantées en Gamay s'est imposé pour lui comme une évidence. Alors bien sûr, les terres qu'il a acquises sur les villages de Morancé et de Thésée se prêtent particulièrement au Pinot Noir par leur sol argilo-calcaire caillouteux, une situation qui est un petit peu perchée à 300-400 mètres d'altitude et qui permet d'éviter la surmaturité du Pinot Noir, et un climat continental tempéré qui se révèle encore une fois parfaitement adapté à son projet Pierre Doré. Alors l'énorme travail de replantation qu'il a entrepris il y a 4 ans sur plus de 20 hectares, avec une sélection très rigoureuse de plantes pinot noir, plantées avec une densité de 6 à 9 000 pieds par hectare, livre donc ses premiers résultats avec le millésime 2015, et ce flacon que vous avez là sur la table. Hein. Au nez, on a un vin gourmand sur les fruits rouges et bien sûr et les fruits noirs bien mûrs. En bouche, le pinot noir se révèle plutôt croquant, rond, ample, avec une belle persistance aromatique. On peut lui prêter une petite capacité au vieillissement. Bon, il faut cependant un peu attendre. C'est un vignoble qui est jeune. Hein. Les vignes ont 4-5 ans. Il faut patienter pour en deviner tout le potentiel. Pour l'instant, on est sur un vin plaisir. Une production qui atteint déjà 12 000 bouteilles, puisqu'il y a à peu près 5 hectares en apport de raisins. Le prix de vente est de 13 euros la bouteille, ce qui est quand même un prix qu'il place au même niveau que les pinots noirs de l'appellation Bourgogne, les bons pinots noirs. Ça montre donc l'ambition de ce projet. Bien sûr, les moyens considérables mis en place par la maison Louis Latour ne sont pas à la portée du premier vigneron venu, mais l'initiative montre qu'il existe des portes de sortie dans cette région qui était quand même en crise. Hein.
Qui est toujours en difficulté. Hein.
Qui est toujours en difficulté, oui. Alors certains, bien sûr, ne manqueront pas de crier au hold-up et de dénoncer la captation du nom de Pierre Doré pour une cuvée de Pinot Noir.
Oui, localement, je pense qu'on va discuter. Si voilà.
Ça fait un peu jaser dans les chaumières. Mais à ceux qui reprocheraient à Louis Latour d'enterrer le Beaujolais, la maison de Beaume peut toujours rétorquer qu'elle continue de croire en l'avenir du Gamay et des crus communaux du Beaujolais, puisque Louis-Fabrice Latour a acquis en 2008 la maison Henri Fessy, spécialisée dans les productions de vins du Beaujolais et du Mâconnais, oui. Et qui sont des vins tout à fait qualitatifs.
De très bonne facture, quoi. Bon, on réagit, le Pinot Noir en Beaujolais, ça vous choque, les amis, ou pas?
Non, pourquoi pas.
Non. Même l'association Pinot Gamay, d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi.
Il faut ouvrir les portes, oui.
Mm-hmm. Je tiens à signaler l'étiquette qui est très maligne, simple d'abord de lecture, mais qui, en bas de l'étiquette, on a toutes les indications, je dirais un petit peu, les renseignements qu'on aime connaître sur un vin, notamment...
Le numéro portable de la vigneronne, tout ça.
Notamment le terroir, l'altitude. Non, ça ne nous raconte pas une histoire, ce vin né sous Henri IV. Non, c'est vraiment le terroir argilo-calcaire, l'altitude, la surface.
On apprend vraiment des choses, quoi.
On apprend vraiment des choses, c'est simple, c'est efficace, c'est factuel, c'est très bien construit.
Allez, Quitus Borol.
Et l'appellation, c'est Coteaux-Bourguignon, c'est ça?
Et oui. Et alors, l'appellation, c'est effectivement Coteaux-Bourguignon.
Coteaux-Bourguignon.
Nouvelle appellation.
Que nous lisons sur la contre-étiquette. En tout petit, ce qui est mis en avant, c'est bien sûr la maison Louis Latour, le Pinot Noir et les pierres dorées.
Merci beaucoup Gérard Muteau de Vinob FM, toujours en public et délocalisé chez Nicolas Paris, place de la Madeleine. On retrouve Didier Lamouche, le président de DLT Consulting, pour commencer par un restaurant coup de cœur. Tiens, c'est nouveau ça.
Absolument, absolument. Alors on va rester autour de Lyon, on tourne autour de Lyon, après le sud, le Côte-Rôti, le nord, le Beaujolais. Là, on va légèrement à l'est. Et une fois n'est pas coutume, je commence ces chroniques En effet, non pas par un vin ou un vigneron, mais par un restaurateur, ou plutôt un entrepreneur, c'est vrai que j'aime bien les entrepreneurs, qui a établi un business model assez intéressant. Alors le restaurant, tout d'abord, il s'agit de l'Alouette, situé à Bonnefamille, ça ne s'invente pas, près de Crémieux, donc à 50 km environ, dans le Dauphiné. Cuisine de terroir sympathique, bien faite, qui s'appuie sur de bons produits, une recherche autour des plantes aromatiques du jardin, donc quelques exemples, plats traditionnels, bon, gigot au romarin, ou plus élaboré, par exemple un saucisson de joues de bœuf confite à la livèche du jardin. Alors la livèche, David, qu'est-ce que c'est la livèche?
Ça, je ne le sais
pas. C'est une plante aromatique, appelée aussi céleri perpétuel, au parfum proche de l'arôme magie, voilà.
Ah.
Ou bien un carpaccio de Saint-Jacques.
Qu'est-ce que c'est quoi les Saint-Jacques, voilà. Philippe Orbach, hein,
voilà. Alors le propriétaire, fondateur, s'appelle Jean-Claude Marlin, installé donc là-bas depuis 30 ans. C'est un entrepreneur, il fait tout, chef, maître d'hôtel, sommelier éclairé. Et outre l'assiette intéressante,
c'est
il
sportif,
a construit,
donc,
ouais, il fait tout. J'y suis allé, on a quitté la table à minuit et demi, il était en train de repeindre son parquet, regarder son parquet sur l'extension.
Vous voyez, chapeau, genre, de type,
hein. Genre de type. S'il a un peu de temps, j'ai quelques travaux chez moi.
Alors, il a construit un business model intéressant. Outre d'assiette donc intéressante, il a construit une cave remarquable, éclectique, mais où on sent vraiment l'amour prononcé autour des Rhônes septentrionnées, en particulier des côtes rôties. Et ce garçon a résolu la quadrature du cercle, ou plutôt la quadrature du flacon. Comment proposer une cave riche de plusieurs milliers de bouteilles, avec de nombreux vieux millésimes, tout en respectant la rotation des actifs nécessaires, voilà, que lui demande son comptable. Eh bien, il a inventé un business, et il a inventé la vente au tarif dit caviste à emporter.
D'accord.
Chapeau, ça,
donc,
c'est bien.
Ouais,
ça, c'est
voilà,
bien,
donc,
ça,
en fait, comment ça marche? Vous voulez vous offrir, mettons, un Chasseline 2005,
d'accord,
avec votre gigot, vous le paierez sur table 116 euros, raisonnable.
D'accord, okay, sur
2005.
Oui.
Vous voulez vous l'offrir pour enrichir votre cave personnelle, il vous en coûtera le pic à vis de
300.
60 euros.
Ah, 60.
La moitié.
Ah oui, c'est très
gros,
bien.
Et ça, il offre ça, a priori, voilà. C'est environ la moitié. Et à souligner en particulier une collection impressionnante donc, de côtes rôties de Jean-Michel Gérin, Bernard Burgot, Patrick Jasmin, Yves Gangloff, et une verticale impressionnante des Turcs Moulin et London de Guigal. Je lui ai soutiré, évidemment, vous imaginez, personnellement, donc un Ermitage de Jean-Louis Cave, Jean-Louis Chave, 98 pour 78 euros. C'est un domaine qui n'existe plus, qui a été racheté par Guigal en 2001, je crois. Un côte rôti de Bernard Burgot, 99 à 45 euros. 99, j'ai acheté ça l'année dernière. Et un pouilly fumé de Didier Dagneau, pur sang 2002. Que l'excellent chef des prémices à Bourg-en-Marlotte, Dominique Maes, m'a cuisiné plus tard avec des langoustines juste saisies, déglacées à l'amaretto et crêpes de Normandie, et servies avec des jeunes pousses de bambou. Voilà, ça vous donne.
Ben vous embêtez pas. Hein.
Voilà,
remettez-nous ça, patron.
L'entrepreneur.
On viendra avec vous. Hein,
je m'appelle l'entrepreneur.
Oui.
Donc Jean-Claude Marlin, le restaurant L'Alouette à Bonnefamille, près de Crémieux, www.restaurant-alouette.com.
Alors, on change de région, direction la Champagne, pour rencontrer une petite maison qui monte, qui s'appelle Dom Pérignon.
Voilà, exactement. Donc, un pèlerinage à Dom Pérignon, donc marque mythique, emblématique, s'il en est de la Champagne. Nous avons eu la chance, grâce à l'entregent d'une des personnes autour de la table, que je remercie chaudement encore une fois, donc on a eu la chance d'être reçus à l'abbaye d'Auvilliers, le quartier général historique de la célèbre maison, et initié par Richard Geoffroy, lui-même, toute une après-midi, donc le chef de cave mythique de Dom Pérignon, l'homme qui en fait crée le Dom Pérignon depuis 25 ans. La composition exacte du Dom Pérignon, comme vous le savez, reste secrète. Tout au plus, on sait qu'il contient Pinot, Chardonnay, en général 60% Chardonnay, 40% Pinot, sauf pour, par exemple, en 2003, où la proportion a été inversée. Mais à part cela, comme dit Richard Geoffroy, lui-même, chaque année est une réinvention et une création. Alors, les grands œnologues, n'est-ce pas, Philippe, ont une intuition sans pareil. Et il avait certainement senti, Richard, que j'étais un peu sceptique sur, en particulier, le rapport qualité-prix de ces vins. Donc, il nous a sorti le grand jeu. Et le grand jeu, c'était quoi? C'était une verticale de 8 millésimes. Donc, voyez, il nous a fallu quand même l'après-midi, 8 millésimes. Et ça vous remet rapidement les idées en place. Question, sensation, opinion concernant donc, la place de Dom Pérignon dans la hiérarchie des grands crus de Champagne. Donc, excusez du peu. Première série, 2006. Nez fumé, florade, finale iodée. 2005, floral, bouche agrume. 2004, droit comme un i, très direct, sans fioritures. 2003, alors pour moi, le plus surprenant, une année très très chaude. Donc, année un peu surmûrie, mais alors une vivacité phénoménale. Et puis 2002, finale citronnée. Voilà, donc là, après ces cinq-là, vous vous dites, ça y est, je suis plus du tout au même endroit que d'habitude. Et donc une caractéristique commune, la puissance, la longueur, la structure acide étonnante, et en fait que l'on continue à retrouver sur les millésimes, même plus anciens. On continue. 98, qui commence à développer des arômes de réglisse et une bouche presque grasse. 96, puissance phénoménale, très beurrée. Et puis enfin, on a fini, parce qu'il fallait bien finir, par un exceptionnel 73. 73.
1900, oui. Vous dites, Didier.
1973, oui, tout à fait. Encore qu'on aurait peut-être pu lui demander un siècle de plus. Je suis sûr qu'il aurait eu la réponse. Donc, grande année en Champagne, ai-je découvert, je ne le savais pas. Crémeux, arôme de coin, inoxydable. Et tous, une caractéristique unique, une fraîcheur immense, même sur les millésimes les plus âgés. Je suis sûr que vous allez me demander quel était
le. Oui, les coups de cœur, en tout cas. Ah, les coups de cœur.
Voilà. Donc, le 2004, pour sa droiture et son aspect classique, si vous voulez. Le 2003.
Étonnamment.
Parce que, voilà, surprenant pour une année aussi chaude de réussir une fraîcheur pareille. Et puis évidemment, le 73 pour sa complexité et sa fraîcheur malgré ses 40 ans passés.
Merci, voilà. Didier Lamouche. On réagit un petit commentaire sur Dom Pérignon avec des millésimes assez étonnants. Et puis en tout cas, une magnifique, un grand moment que vous avez vécu, Didier.
Oui, c'est toujours exceptionnel de pouvoir comparer les choses. Alors c'est vrai que 2004, ça ne m'étonne pas. C'est un grand millésime champenois. Donc. Les choses sont en place et on a effectivement ce côté très, ce profil très droit, très, très fin en même temps et acidulé. 2002, un joli millésime aussi, oui, avec un beau potentiel. Et puis, un grand vin, ça se révèle avec le temps. Donc, ce n'est pas étonnant que 73, qui est effectivement un des rares endroits en France, dans le monde, où le vin était bon, c'est la Champagne, hein, soit en forme. Moi, j'ai goûté, il n'y a pas très longtemps, des millésimes encore un peu plus anciens. 69, qui est un grand millésime aussi champenois, et dans les années 40, des 45 et plus anciens encore, des 21 par exemple, qui étaient juste bluffants d'énergie, même si la bulle avec le temps disparaît.
Disparu, oui.
Mais la vinosité est très présente.
David,
juste un mot, Didier, 100 ans de plus, il n'aura pas pu parce que la marque n'existait pas.
Ah, n'existait pas.
Le rebranding, ça existe.
Richard, Richard Geoffroy a parfaitement compris le potentiel de vieillissement de ces vins. Et d'ailleurs, il sort ses vins Plénitude 1, Plénitude 2
Plénitude
et
3.
Même Plénitude 3 pour ceux qui peuvent se les offrir.
On reste dans la magie des grands moments, quoi, on va dire. Merci en tout cas Didier, merci également Gérard. Invino BFM, on retrouve maintenant David Cobod, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, qui nous parle de l'événement majeur. Ça s'est déroulé il y a un mois. C'était le 8 octobre, la fête des vendanges de Bagnols-sur-Mer, dans une région sublime.
Alors, c'est une fête des vendanges qui a lieu depuis 21 ans. Donc, ils ont duré, mais ça ne remonte pas à l'Antiquité. Donc, cette fête, qui est vraiment très jolie, je vais vous en parler un tout petit peu. Après, ça m'a inspiré de retracer l'histoire des fêtes des vendanges dans différentes civilisations antérieures et actuelles aussi. Donc Bagnols-sur-Mer, c'est un petit village, enfin une petite ville de 4700 habitants sur la côte Vermeille, proche de la frontière avec l'Espagne. Et je pense que ces paysages absolument magnifiques de vignes très sauvages, de vignes, de garrigues, on ne doit pas y faire la fête tous les jours parce que c'est un paysage dur. Hein. C'est des terres dures, pentues, baignées par la mer en bas, secouées par le vent un peu partout. Le soleil comme la sécheresse peuvent être impitoyables, des pentes, des cailloux. Je ne pense pas non plus que ces vins, que ce soit, parce qu'il y a deux appellations sur l'air, les vins secs s'appellent Collioure, les vins mutés, généralement doux, voire très doux, s'appellent Bagnols. Je ne pense pas que ces vins se vendent tout seuls. Donc, ce n'est pas la fête tous les jours pour les vignerons. Il faut y aller, il faut travailler et après,
il faut aider les gens du Beaujolais et également de Collioure-Bagnols.
De Collioure-Bagnols. Donc, c'est dur, il faut s'accrocher, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Une fois par an, ils organisent cette fête de vendange formidable qui est une espèce d'ode à la vigne, au vin, aux gens qui le font, mais au partage aussi. Les consommateurs sont à la fête. Et tout le monde se met sur la plage. Il y a, admettons, 15 000 personnes sur une petite plage de galets et de sable gris, plus une autre dizaine de milliers dans les ruelles derrière qui font la fête. Et on croise des bandas, des bikers, des élus, des bourgeois, des commerçants, des artisans, des vignerons, des consommateurs. Un maire formidable, des jeunes, des vieux. Et tout ça d'une manière paisible, de partage, de fête, de festivités. On grille des sardines, des anchois. De la viande, tout sur la plage. Et ça se passe très bien. C'est joyeux, c'est coloré. Et du coup, ça m'a inspiré à rechercher l'origine de ces fêtes populaires, festives, qui fêtent quelque chose, un moment fondamental dans la vie du vin, c'est-à-dire ramasser les raisins et les transformer en vin. Alors, d'abord, la Grèce antique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quatre fêtes à la Grèce antique consacrées à Dionysos. Comme vous savez tous, c'était le dieu du vin. Fils de Zeus et de Déméter,
déesse de la fertilité.
Il était dû aussi du théâtre.
Alors, le seul problème, c'est que ces fêtes de Dionysus ne se passaient pas au moment des vendanges. Ils se passaient au début de l'hiver ou au début des printemps. Il y avait les Dionyses rustiques pendant le mois de Poséidon, qui correspond à notre mois de décembre, les Lénées pendant le mois de Gamélion, janvier-février en gros, les Antestéries pendant le mois d'Antestérion, février-mars, et les grands Dionys pendant les mois de Elaphébolion, mars et avril. Voilà, tout ça, on passe à la Rome antique maintenant, au Rome antique.
Et au Bacchanal.
Alors, les Roms, c'est beaucoup plus riche, et là, on est beaucoup plus axé sur la période des vendanges. Donc, il y avait deux cérémonies liées aux vendanges. La première avant, et la deuxième à la fin. La Vinalia marquait le début des vendanges, tandis que les Méditerranéalia étaient les véritables fêtes de vin nouveau, indiquant la fin des vendanges. Alors, comment ça se passait ? Durant les Vinalia, on préparait les vendanges qui allaient s'effectuer dans les semaines qui allaient venir. Et la cérémonie consistait à la fois à des rituels religieux. On va y venir à la religion parce qu'elle est capitale dans cette affaire-là. Ces fêtes étaient vouées à Jupiter et à Bacchus. Jupiter étant, pour les Romains, le père de Bacchus. Et Semele étant la mère. Hein, c'est la transformation de Déméter. Comme quoi, on n'invente rien, on transforme dans l'histoire. Et cette fête, durant laquelle on riait, on chantait, je pense qu'on buvait pas mal aussi, parce que les Romains, à la différence des Grecs, ne coupaient pas avec de l'eau et buvaient sec, tel des barbares. Parce que pour les Grecs, quelqu'un qui buvait son vin sec était un barbare. Alors après, à la fin des vendanges, on a les Méditerranéalia, qui donnaient à tous l'occasion de marquer la fin des vendanges en procédant à un pressurage symbolique des raisins, et à bénir quelque part la première coulée du vin nouveau. Et j'ai trouvé un écho à Banyuls il y a un mois, je vais en reparler. Puis on mélange symboliquement ce vin nouveau au vin vieux de l'année précédente. Donc quelque part, on a un élevage en soléra là, qui s'initie, c'est-à-dire que le jeune est élevé, éduqué par le vieux. Et ça, symboliquement, c'est assez fort dans le vin. Alors le vin est une chose si précieuse pour les Romains qu'on attribue l'invention à un dieu. Et les vendanges n'allaient jamais sans fête en l'honneur de Bacchus, l'équivalent de Dionysus, je l'ai déjà dit, qui leur avait appris à cultiver la vigne et aimer le vin. Après, les chrétiens arrivent à l'heure des chrétiens. Alors au début, c'était un peu triste, les chrétiens. Ils voulaient réprimer tout ça, ils voulaient interdire le vin et tous les produits alcoolisés. On trouve quelques relents aujourd'hui, de nos jours, n'est-ce pas ?
Ça se calme. Mais vous savez ce qu'on va faire, David, c'est qu'on va laisser passer un petit peu de temps la semaine prochaine pour la fin. La fin.
Je reviens parce que l'histoire est passionnante.
Oui, 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 oui.
Et puis je vais faire le lien entre les chrétiens et l'actuelle fête des vendanges à Bagneuse, sur lequel je vais revenir la semaine prochaine.
Bon, donc en tout cas, vous conseillez, il faut y aller l'année prochaine pour 2017.
Il faut y aller cette premier week-end d'octobre.
Merci beaucoup, David Cobold. Fin de ce numéro 618 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Samedi à 13h et dimanche à 15h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business. Et surtout, respectez la plus grande des modérations.